toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
C'est une femme fantôme, une femme que personne ne voit et qui a commis le pire des crimes, un infanticide. Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme fantôme pour reprendre les mots de son avocate, car le film à l'honneur ce samedi est un film de procès, celui de Laurence Colly qui, un soir de novembre 2015, a laissé sa petite fille de 15 mois sur la plage attendant que la mer l'emporte. Ce film, c'est Saint-Omer, le film désigné par la France pour la représenter dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger. Écrit après plusieurs prix, dont le Lion d'argent à la dernière Mostra de Venise, collectionne les récompenses dans les festivals internationaux, Genève, dernièrement Séville, et puis le prix Jean Vigo. Bonjour Alice Diop.
Bonjour.
Merci beaucoup de venir nous parler longuement de votre premier long métrage de fiction, film de procès, film de fantôme qui explore les zones les plus sombres, les plus incompréhensibles de l'âme humaine, mais aussi l'inconscient et l'impensé, qu'il soit féminin, colonial ou raciste. À l'affiche de notre cinéma aussi ce samedi, nous feuilleterons les dernières nouvelles du 7e art avec vous, Elisabeth, et nous irons à Khartoum, où l'association Sudanese Film Group organisait une semaine de projections de films réalisés dans la Corne de l'Afrique.
Je suis un peu soufflée. C'est un immense honneur pour moi de recevoir ce prix d'un tel jury, des mains d'une présidente comme Julianne Moore. Il y a quelques jours, je parlais avec Guslaji Malanda, une des interprètes de mon film. Elle me racontait en fait l'effet que votre interprétation lui avait fait dans The Hour. Et j'imagine sa joie, et j'imagine sa fierté, et l'intensité pour moi que c'est de recevoir une récompense comme celle-ci. Je me dis qu'il y a une histoire de transmission, il y a une histoire de sororité, il y a une histoire de passage de relais dans ce film si féminin, et ça me touche énormément. C'est très étrange parce que je n'ai pas les mots, alors que je n'ai plus les mots. Alors que quand je tournais Saint-Omer, il y a un livre qui était mon livre de chevet, que je lisais tous les soirs et qui me donnait de la force. C'est un livre de la poétesse Audre Lorde qui s'appelle Sister Outsider. Et dans Sister Outsider, elle écrit, j'essaie de me souvenir de la phrase exacte, mais dans l'émotion peut-être que, excusez-moi d'avance si je ne m'en souviens pas complètement, mais je crois qu'elle dit, en parlant des femmes noires, notre silence ne nous protégera pas. Et ben, j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Merci beaucoup.
Alors Alice Diop, c'est vous à la fois très émue et très campée sur la scène du Palazzo del Cinema de Venise en septembre dernier, lorsque vous avez reçu donc le Lion d'argent pour Saint-Omer. Vous citez la poétesse américaine Audre Lorde qui dit à propos des femmes noires « Nous ne nous tairons plus ». Ce film, Saint-Omer, pour vous, c'est justement un film qui porte la voix des femmes noires, à commencer par celle du personnage principal, Laurence Colly, donc cette femme née à Dakar qui a étudié en France et qui est accusée d'avoir tué son bébé.
Oui, en fait, c'est un film qui porte et la voix des femmes noires et la voix de toutes les femmes. Et ça, c'est la plus grande des victoires, c'est la plus grande des récompenses dans tout ce qui s'est passé depuis septembre. C'est marrant, j'écoute ça et je suis extrêmement émue parce que je ne m'étais pas réécoutée, bien sûr. Je ne m'étais même pas entendue sur le moment, en fait. Tellement c'est ce qui est venu. C'était très sidérant pour moi d'avoir deux prix. On m'avait dit que j'avais un prix, mais je n'étais pas du tout au courant du deuxième. Donc ce discours, c'est presque un discours inconscient, en fait. J'ai dit ce qui me venait sans avoir pu préparer un discours comme j'ai pu un peu le préparer pour la réception du premier prix.
Et je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je me souviens, en fait, Elisabeth, que vous étiez la première personne à qui j'ai parlé de ce film, en fait, avant d'aller à Venise. On a fait un interview par téléphone juste avant d'y aller. Et ça m'a vraiment bouleversée, en fait, cet entretien, parce que je me souviens de votre émotion, en fait, et d'une émotion qui était au-delà de l'émotion d'une journaliste. Et en fait, c'est presque comme si ça m'a... C'était la première, les premiers mots, en fait. C'est les premiers mots d'une femme blanche, en fait, qui me parlait de mon film et dont je sentais traversée par quelque chose... Voilà, qui dépasse qui dépassait le métier. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti ce premier entretien. Je me souviens parce que c'est la première fois que je parlais du film avec un journaliste avant d'aller à Venise. Et ensuite, ce qui s'est passé, cette première chose n'a eu de cesse de se confirmer dans toutes les femmes journalistes ou non que j'ai rencontrées, des spectatrices, jusqu'à Julianne Moore qui me disait le soir de la remise des prix que Sénabou, c'était sa mère, Cate Blanchett, qui m'a écrit une lettre extraordinaire. Mais je pourrais citer une femme il y a deux jours dans une projection à Paris qui m'a dit à quel point elle avait l'impression d'être à la fois la fille et la mère quand elle regardait ce film, et c'était une femme blanche. Donc ce qui est magnifique pour moi et ce qui est extrêmement politique, c'est que c'est un film qui porte la parole des femmes noires, mais qui porte la parole des femmes noires de façon tellement puissante que toutes les femmes au monde peuvent se reconnaître et peuvent s'identifier. Et pour moi, c'est ça qui est presque le plus beau, en fait, dans ce qui m'arrive, au fond.
Ce film, Alice Diop, vous l'avez écrit d'après un fait divers réel qui avait ému la France. Alors, c'était en 2013. Dans votre film, ça se passe en 2015. De toute façon, il y a le décalage de la fiction. Dans la réalité, l'accusé qui est accusé des mêmes faits, à savoir avoir laissé son enfant de 15 mois sur la plage en pensant et espérant que la mère l'emporte, s'appelle d'ailleurs Fabienne Cabou. Qu'est-ce qui vous, à l'époque, vous avez aspiré?
En fait, au-delà du fait... Moi, je suis allée au procès dans une totale inconscience, dans une totale... avec tous mes impensés, enfin avec toutes mes questions en gros, sans être dans une position de réalisatrice, parce que quand j'assiste au procès à Saint-Omer, je ne me dis pas que je vais en faire un film, je ne me dis pas encore que je vais en faire un film. J'y vais aimantée par une fascination que j'ai pour cette femme. Et la fascination naît d'une photo que je vois dans un journal publié dans un quotidien français, et c'est une photo qui était... issue de la gendarmerie nationale, de l'avis de recherche de la gendarmerie nationale, qui cherchait donc une femme noire après avoir fait la découverte macabre du corps d'un enfant au petit matin sur la plage de Berck-sur-Mer en novembre, il y a quelques années. Et donc, après, les premiers éléments de l'enquête étaient remontés sur cette femme poussant cet enfant métisse dans une poussette prise sur le quai de la gare du Nord. Et c'est une femme qui a à peu près le même âge que j'avais à l'époque, une petite trentaine d'années. Et quand je regarde ce visage, je sais absolument qu'elle est sénégalaise et je reconnais quelque chose de familier. C'est comme si cette femme, je la connaissais, en fait, comme si ça pouvait être une cousine ou une parente lointaine, ou comme si je voyais d'elle quelque chose peut-être de moi. En fait, c'est ça qui est presque inavouable. À ce moment-là, je ne me dis pas ça parce que c'est très inquiétant de se dire qu'on se reconnaît dans une femme et qu'on se voit dans quelqu'un qui a fait quelque chose d'aussi terrible. Donc, quand quelques jours après, j'apprends effectivement qu'elle est sénégalaise et que ses premiers mots, en fait, pour tenter d'expliquer son geste, consiste à dire « j'ai déposé ma fille sur la plage avec l'idée que la mère emporte le corps ». Pour moi, il y a un champ, il y a tout un récit, en fait, toute la promesse d'un récit qui s'invente là et qui, je pense, justifie et qui me conduit littéralement à assister au procès de cette femme quelques années après, quand ce procès a lieu, sans en parler d'abord à des gens. J'en parle très peu, à peine à mes producteurs, j'en parle juste à mon amie et monteuse Amrita David, qui par la suite va écrire avec moi et va co-scénariser le film, puis en plus de le monter avec moi. Et donc, on s'en parle ensemble, mais presque en murmurant, parce que c'est comme si on était presque honteuse de cette fascination pour cette femme. Et en fait, je m'aperçois que cette fascination que j'ai est absolument partagée. Il y a énormément de femmes comme moi qui ont fait le trajet vers Saint-Omer alors qu'elles n'avaient pas forcément de fonction. Il y a énormément de femmes journalistes qui assistent au procès. Il y a des avocates, bien sûr, mais il y a des juges assesseurs, il y a la présidente. Enfin, j'ai l'impression que devant moi est convoqué un gynécée de femmes qui, en fait, est mue par la même fascination. Et c'est ce qui rend ma fascination un peu plus acceptable. C'est-à-dire que je me rends compte que finalement, ce que je ne savais pas encore, ce qui m'aimantait vers cette histoire, Et je pense que, le sais-je jusqu'à aujourd'hui, je pense que je continue encore à éclaircir des zones, à révéler des choses que j'ai pas forcément envie de formuler, qui sont formulées dans le film et qui sans doute mieux que ce que je peux en dire et mieux que de la manière dont je peux les voir. En tout cas, je sens que cette obsession, que cette fascination pour cette femme, c'est une obsession qui est absolument partagée et que cette femme qui a commis le plus grand des tabous, finalement, nous convoque toutes à aller regarder quelque chose de nos maternités, en fait. Et c'est la fonction de ce procès, c'est la fonction de... En tout cas, c'est ce que ce procès me fait, il me bouleverse à cet endroit. Et c'est parce que je me rends compte que mon bouleversement est partagé que je comprends qu'un film est possible. Et le film est possible uniquement pour ça, en fait. Parce que, justement, parce que ce que j'ai vécu est partageable.
Dans un premier temps, vous leur déclarez que vous avez envoyé votre fille chez votre mère à Dakar pour avoir le temps de rédiger votre thèse. Les policiers vous signalent que vous avez été vu avec l'enfant dans une poussette à la gare du Nord, sur la plage et à l'hôtel à Berck-sur-Mer. Les images tirées des caméras de surveillance montrent que vous êtes rentré seul à Paris, sans l'enfant. C'est à ce moment que vous passez aux aveux. Vous déclarez aux enquêteurs avoir tué votre fille parce que, je vous cite, « la vie serait plus simple comme ça ». Vous dites être passé à l'acte après une violente dispute avec M. Dumontet. Vous déclarez avoir déposé votre fille sur la plage avec l'idée que la mère emporterait son corps. Vous déclarez avoir été, je vous cite, embarqué dans une entreprise tragique et immonde. Et bien que vous revendiquiez votre appartenance à la culture occidentale, vous décrivez des phénomènes hallucinatoires dont vous seriez victime. Vous évoquez un maraboutage, un sort jeté sur vous par votre famille au Sénégal et par la famille de M. Dumontet.
Voilà, Alice Diop, un extrait hein, de l'acte d'accusation lu par la présidente du tribunal dans votre film Saint-Omer. Et un peu plus loin, elle va poser la question à l'accusé Laurence Colly. Est-ce que vous savez pourquoi donc vous avez tué votre enfant? Et elle répond, l'accusé répond très très calmement, non. Et d'ailleurs, j'attends de voir, j'attends que ce procès élucide ce mystère, un mystère qui reste. C'est un mystère, c'est insondable. Hein. Vous parliez de votre obsession, mais le mystère de ce crime reste comme un trou noir.
Et je dirais même que c'est la matière principale du film, le mystère de cette femme. Le fait d'être confrontée à ce mystère et ne pas tenter de vouloir l'élucider, parce que qui peut élucider ce qu'elle-même ne peut pas, ça oblige tous les spectateurs, toutes les spectatrices à rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pour ça que je dis que le film, en fait, est le fruit de cette expérience. C'est des choses qui ne sont pas très concrètes, ce que je raconte, mais c'est vraiment sur ça que repose le film. C'est-à-dire que devant l'impossibilité de comprendre l'acte de la véritable accusée, en fait, on était toutes totalement angoissées parce qu'elle nous renvoyait devant cette porte fermée. On était obligé d'ouvrir une porte à l'intérieur de nous et d'aller regarder, éclairer des choses assez inconfortables, assez inavouables, assez violentes. Et que finalement, de le faire, elle nous permettait d'aller réparer et paradoxalement d'aller consoler quelque chose. Moi, c'est un film qui pourrait être très dur, mais c'est un film, au fond, qui va consoler quelque chose d'un rapport à la maternité qu'on n'a pas forcément envie de regarder à l'endroit de toute sa noirceur, de toute sa complexité, de toute sa violence, de toute son ambivalence. Et c'est ce que cette accusée nous force à faire parce qu'elle nous échappe en permanence, quoi.
Et ça, ce sont les vrais mots de Fabienne Cabou.
C'est absolument les vrais mots de Fabienne Cabou.
Ouais, vous êtes vraiment partie de ces phrases à elle.
En fait, tout le procès, c'est-à-dire tout ce qu'on vient d'entendre, est le verbatim quasi au mot près de tout ce que j'ai entendu au procès, de tout ce qui s'est dit. Et en fait, donc, le sujet principal du film, c'est presque cette matière documentaire. Et le film est possible parce que l'intensité de ce qui se change entre cette femme et la présidente, en fait, nous pose des multiples questions et dépasse complètement le sujet de l'infanticide. Pour moi, c'est vraiment pas un film sur le crime, c'est pas un film sur un fait divers, c'est un film sur la maternité que je vais regarder à l'endroit le plus étonnant, le plus obscur, mais parce que c'est cette femme qui nous permet, en fait, en tentant d'essayer de comprendre son geste, en tentant de faire le point sur la mère qu'elle a été, sur la mère qu'elle a eue, sur la fille qu'elle est, sur... Elle nous oblige finalement à... Enfin, elle nous permet en tout cas d'aller nous regarder, nous, finalement.
Vous parlez parliez de consolation, Alice Diop, et ce titre que l'on va passer maintenant, mais qui intervient plutôt à la fin de votre film Saint-Omer, agit vraiment comme une sorte de baume, comme une consolation. C'est Nina Simone, Little Girl Blue. Sur RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie d'Alice Diop pour parler du film Saint-Omer qui sort mercredi prochain sur les écrans français. Votre film, Alice Diop, c'est un film de regard et de parole, évidemment. Il y a ce français très littéraire, très châtié de l'accusé, Laurence Colly. On apprend d'ailleurs pendant le procès, ce qui était le cas de Fabienne Cabou, que sa mère lui interdisait de parler wolof. Alors ça peut paraître, enfin c'est une injonction qui était très pragmatique, voire enfin en tout cas très prosaïque. C'était pour lui donner les meilleures chances de performance hein, et de réussite. Mais c'est une violence en fait. C'est un exil.
C'est surtout une violence pour moi.
Ouais, c'est ça.
C'est absolument une violence. C'est une violence que je partage parce que moi-même je ne parle pas wolof ni sérère, qui est la langue maternelle de mes parents. Justement, au nom de cette injonction violente et presque raciste, en fait, provenant de mes parents sont arrivés au début des années 60 et l'institutrice de ma sœur aînée avait recommandé à mes parents de ne pas lui parler en wolof pour qu'elle intègre mieux le français. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est une aberration absolue et que les enfants bilingues sont des enfants qui, justement, ont une capacité d'intégration de langue beaucoup plus grande et beaucoup plus précise. Mais je pense que c'est une injonction aussi politique, d'une certaine façon, c'est une assimilation comme ça au forceps, et c'est une manière d'échapper et d'invisibiliser une histoire.
Et puis de contrôler aussi, peut-être.
Oui, de contrôler, d'accaparer, d'accaparer les enfants, en fait, à travers la langue. Et moi, c'est quelque chose qui me coûte beaucoup. Donc je vois encore aujourd'hui les effets. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas parler sa langue maternelle? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas transmettre, en fait, à son propre enfant la langue maternelle? Je vois bien comment l'entrée dans une maternité peut être aussi amputée de toute cette histoire-là, de toute cette manière dont la langue est une manière de véhiculer aussi une histoire d'amputer aussi et de fracturer et de casser des lignées, un lignage, une appartenance. Donc moi, je l'ai vraiment entendu, et cette manière de parler, effectivement, si performative, parce que c'est moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme parlait Fabienne Cabou, et même Marine Diaye, notre grande romancière goncourisée, était ébahie par la qualité de la langue et par la précision de la langue de Fabienne Cabou, qui est quasiment retranscrit in extenso dans le film. Et moi, cette langue, elle m'émeut parce que j'ai l'impression que c'est son endroit de résistance, en fait. Elle résiste aux projections qu'on peut avoir sur ce qu'est une femme noire. Donc elle utilise cette langue comme un bouclier, en fait, pour renvoyer toutes les projections possibles sur elle. Mais c'est aussi la seule chose qui lui reste à cette femme qui a tout perdu, cette femme qui n'a pas été vue, qui n'a pas été écoutée, qui n'a pas été entendue. La précision de cette langue, c'est aussi une façon de dire pour la première fois et peut-être la dernière qui elle est. Et donc, elle me touche énormément, cette langue.
Et la précision de cette langue, elle va aussi peut-être pas se retourner contre elle, mais aussi être visée. Mmh. Assigné, ouais. À rebours, puisqu'on va dire, ouais. Ah, mais comment cette femme noire peut parler un aussi beau français? Il y a aussi sa prof qui dit, mais Wittgenstein, ouais. Mais pourquoi, ouais. Enfin, ouais. Donc, il y a des tas de micro-agressions que vous utilisez aussi, ouais. Que vous pointez, ouais. Grâce à la langue.
Exactement. Mais il y a aussi, la langue, par sa langue, elle ne donne pas accès à l'empathie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle une langue qui met l'autre à distance, en tout cas, ou qui le fascine tellement, ou qui le met dans un endroit d'égalité, voire de puissance. Parce que vraiment, encore une fois, il y a certaines phrases de Fabienne Cabou que je ne comprenais pas. J'étais dans une gangue sclérosante et anesthésiante. J'ai dû prendre un dictionnaire pour comprendre ce que ça voulait dire. Donc, il y a même un endroit même d'autorité. C'est-à-dire, elle fait autorité par sa langue. Et du coup, en fait, elle place les gens qui la regardent à un endroit très inconfortable aussi pour eux. C'est-à-dire que cette femme noire qui est dans cette position d'autorité alors qu'elle a commis le pire et qu'elle est censée être dans une position de vulnérabilité totale, elle ne nous offre pas la possibilité de la compassion, en fait. Et ça, je trouvais ça intéressant, qu'elle refuse la compassion. Et moi, effectivement, si j'ai pris tant de plaisir à travailler autour de ce personnage, c'est que j'avais l'opportunité là de faire le portrait d'une femme noire extrêmement puissante, extrêmement complexe. Et ça, je l'ai très peu vu dans le cinéma. J'ai l'impression que très souvent, en tout cas dans le cinéma français, quand les personnages de femmes noires, elles suscitent beaucoup la compassion. Et pour moi, la compassion, c'est toujours qui a la supériorité du regard, enfin qui regarde et qui a le pouvoir de regarder.
Il y a toujours un écart.
Il y a toujours un écart quand on est dans la compassion, dans une forme de condescendance. Où, là, en fait, elle refuse absolument ça. Elle ne nous permet pas ça. Et parce qu'elle ne nous permet pas, en fait, elle nous met absolument à distance. Et que quelque part, ça se retourne contre elle. Ça peut se retourner contre elle.
Saint-Omer, c'est un film sur la solitude absolue, Alice Diop.
C'est entre autres aussi un film sur la solitude absolue. Ouais. C'est la solitude de cette femme et l'invisibilité de cette femme, hein. Le silence de cette femme qui, tout d'un coup, dans ce tribunal, dans cette salle d'audience, va être vue et va être entendue et va nous renvoyer toutes et toutes, mais moi et la réalisatrice, comme Rama, la romancière, comme les spectateurs de la ville qui regardent cette femme majoritairement blanche, qui regardent cette femme noire, elle nous renvoie tous à nos préjugés, à nos fantasmes, à nos projections. Et en fait, elle fait vaciller, en fait, elle nous fait vaciller à tous les endroits. Et ça, c'est quelque chose de puissant, ce que fait cette femme. Ce que fait le corps de cette femme.
Comment était Madame Colly comme étudiante?
Ce qui me frappait, c'est qu'elle était très à l'aise à l'oral, très articulée. Mais il y avait un grand écart entre ses écrits et l'oral. À l'oral, elle était à l'aise, et devant une page blanche, elle ne faisait plus illusion, comme si sa pensée manquait de cohérence.
Madame Colly, vous avez prétendu travailler à une thèse portant sur le philosophe Wittgenstein. Pourquoi Wittgenstein?
Je ne sais pas.
Madame Jobard, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce choix?
C'est une fabulatrice. Ce qui est intéressant avec Wittgenstein, c'est qu'il est quand même un philosophe du langage. Mais bon, je pense que ce choix est un masque. Elle se réfugie derrière une philosophie qui ne parle pas d'elle.
Qu'est-ce que vous entendez par une philosophie qui ne parle pas d'elle?
C'est quand même étrange qu'une femme africaine s'intéresse à un philosophe autrichien du début du XXe siècle. Elle aurait tout aussi bien pu choisir un sujet plus proche de sa culture.
C'est terrible comme extrait, Alice Diop, cet extrait-là, donc de Saint-Omer, hein, ce témoignage, c'est une témoin appelée à la barre, je ne sais pas si la directrice de thèse de Laurence Colly.
Sa prof de philosophie. Ouais.
Sa prof de philo qui sort des énormités racistes ainsi, alors que justement, l'objectif, et Laurence Colly, et aussi ce film, Saint-Omer, tend à l'universel, à montrer l'universalité. Cette prof de philosophie enferme.
Elle enferme. Moi, c'est vrai que c'est marrant parce que on est peu, je crois que je suis presque la seule à l'avoir entendu, ça, parmi tous les gens qui ont commenté le procès de Fabienne Cabou. Et je l'ai d'autant plus entendu que c'est des choses que j'ai entendues moi-même, pas plus tard qu'il y a quelques mois ou quelques années, je crois, une journaliste me demandait comment ça se fait que j'étais si férue de littérature et que j'aimais particulièrement Claude Simon ou Père Bergougnoux, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Elle me demandait mais d'où ça vient. Et je comprenais pas son d'où ça vient. Enfin voilà, même dans les projections. Dans les projections, on va me renvoyer qu'en regardant Saint-Omer à un film que j'adore par ailleurs, de Saint-Ben Ousmane, La Noire 2, alors que ma référence absolue de ce film, c'est plus Bresson ou... Et c'est même pas un... C'est pas une manière de ne pas porter en fait la puissance de Saint-Ben, mais c'est que en fait on est en permanence, quand on est une femme noire, renvoyée à quelque chose qui nous empêche de penser, de dire et d'être traversée aussi par l'universel. Je peux tout à fait Bresson et Saint-Ben font tout aussi partie de moi que Bergougnoux et Claude Simon et que Wittgenstein et pour elle, enfin pour moi ça me paraît pas du tout une aberration. En fait, l'aberration, c'est qu'on ne puisse pas la voir à cet endroit, en fait. C'est ce que ça raconte de ceux qui la regardent, finalement, ce type de propos d'un pensé raciste. Et en fait, le film répond par Rama, par une prof de littérature, Rama, qui, sur la scène de Sciences Po, cite Hiroshima, mon amour, devant des images des femmes tondues. C'est la plus belle des réponses, finalement, Rama, cette femme noire française. C'est la plus belle des réponses à ce type d'un pensé raciste. Et en fait, c'est la plus belle des déclarations de notre hybridité, de notre complexité, de la manière dont on est traversé par des référents culturels qui vont à la fois de Saint-Ben Ousmane à Édouard Glissant, à Wittgenstein, à Claude Lévi-Strauss, enfin, et qu'on est fait, en tout cas en tant que femme noire française de 43 ans, moi je suis faite de tout ça, comme Ramallet, comme sans doute Laurence Collilet, mais ça a été tellement peu vu, ça, que c'est, effectivement, ça explique aussi ce type de propos assez racistes, au fond.
Et justement, on pourrait se poser la question comment une femme aussi cultivée, éduquée que Laurence Colli, finalement, pense qu'elle a été maraboutée, qu'il y a de la sorcellerie. Et je trouve que vous y répondez dans une séquence qui est absolument magnifique. Et je voudrais que vous nous la racontiez, que vous nous racontiez comment vous l'avez conçue au moment présent. Alors, je ne sais plus si c'est de maraboutage ou de sorcellerie qu'on parle à ce moment-là, mais son regard à elle s'évade vers une fenêtre, vers la lumière, voilà, et vers le ciel.
Bah, en fait, la question du maraboutage et de la sorcellerie dans le cas de ce film, elle est très ambiguë, elle est très... et je crois que j'ai pas...
Parce que c'est elle-même, hein, la victime qui... la criminelle, en fait, qui parle
de... C'est elle qui en parle, mais en fait, elle en parle parce qu'on lui en a parlé. C'est-à-dire que moi, ce dont je me souviens et ce dont le film tente de raconter, en fait... C'est que c'est le juge d'instruction, si je me souviens bien, qui devant l'impossibilité, encore une fois, de comprendre l'acte de cette femme, et personne n'a réussi à comprendre, ni les experts psychiatres qui se sont penchés sur son cas, ni les juges, ni les spectateurs, ni personne. En fait, donc lui, comme tous les autres, était devant une question face à cette femme. Et il lui aurait dit, durant le premier interrogatoire, mais peut-être que votre culture pourrait nous aider à comprendre ce que vous avez fait. Et elle lui répond... À ce moment-là, avec beaucoup d'arrogance, pas du tout, je suis cartésienne, monsieur. Et donc, il demande une pause, et ensuite, elle revient, et là, tout d'un coup, elle s'empare réellement de la question de la sorcellerie. Or, est-ce que c'est par opportunisme? Est-ce que c'est pour tenter d'expliquer quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer? Donc, moi, en fait, c'est très irrésolu, cette question de la sorcellerie. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est effectivement une projection raciste, une stratégie de défense que lui offre clé en main ce juge d'instruction, mais habité par ses préjugés. C'est-à-dire qu'il peut pas, ce qu'on ne peut pas expliquer chez cette femme, il faut s'emparer du maraboutage. Je suis pas sûre que Dominique Courgeot, par exemple, qui a tué 6 de ses enfants, quelqu'un lui ait suggéré les robuteux de je ne sais quelle région ou village français. Ouais. Donc, en fait, cette question du maraboutage et la manière dont elle a tellement été commentée, la façon dont elle a si fasciné la presse, moi, ça me racontait aussi, encore une fois, cette surface de projection qu'était cette femme. Et la manière dont chacun projetait sur elle des choses qui étaient rassurantes, en fait, au fond. Parce que dire « elle a été maraboutée », bah, y a plus de question. Je veux dire, c'est irrationnel. Et aussi bien pour elle que pour sa mère, je trouve que c'est aussi très émouvant la manière dont sa mère aussi s'est enfermée, en tout cas, penser la question de la sorcellerie. Mais sans doute que peut-être qu'elle le pense vraiment. Moi, je ne le sais pas, en fait. Peut-être que Fabienne Cabouze a fini par se convaincre qu'elle avait été maraboutée. Peut-être que c'est l'explication qu'elle donne. Mais... tout échappe, c'est-à-dire que et le regard de Rama qui s'évade, c'est aussi une façon de dire j'en ai marre de rien comprendre, c'est-à-dire que je ne peux plus être là parce que je ne comprends rien. En fait, je ne comprends plus rien. C'est une manière de faire l'aveu de l'échec devant cette énigme qui ne cesse de s'épaissir, quoi.
On parlait de regard, on le disait, Alice Diop, c'est un film de parole, mais c'est aussi évidemment un film de regard. Il y a des choix très forts de mise en scène, des longs plans fixes, notamment donc sur l'accusée, Laurence Colli, qui parle, qui répond en regardant sur sa gauche à elle, donc à la droite de l'écran. Le hors-champ, c'est la présidente du tribunal qui lui pose des questions. Par moments, elle apparaît comme perdue sur son banc d'accusé, par moments complètement enfermée, cornérisée, hein, quasiment par le cadre. Et on a le sentiment que tout le film va vers l'élargissement du cadre et jusqu'à un regard qu'elle va pouvoir partager avec Rama. Donc l'écrivaine, un peu votre envoyée, assis dans le cadre, qui est sur le banc des spectateurs. C'est vraiment un film sur le regard.
Oui, c'est un film sur le regard, et je dirais même que c'est un film où peut-être que le personnage principal, c'est le spectateur. Moi, je n'avais pas revu le film depuis Venise, et je l'ai revu il y a quelques jours dans une salle de cinéma, en fait, qui était une salle de cinéma très petite et configurée exactement pour ce film. Et en fait, c'est comme si je vivais dans mon corps ce que j'avais tenté de faire dans la mise en scène. C'est-à-dire que la salle de cinéma était quasiment dans les mêmes proportions que la salle d'audience. Et tous les spectateurs de la salle étaient comme des spectateurs de la cour d'assises. Et donc, on revivait quasiment en temps réel un véritable procès, en fait. Et on était confrontés, enfin, en tout cas, moi, j'ai éprouvé dans mon corps ce que j'ai voulu mettre en scène, c'est-à-dire permettre aux gens de traverser le récit de cette femme, de l'écouter avec intensité, de la regarder pleinement. Et quand on regarde intensément quelqu'un, on passe pas à droite à gauche, c'est le regard d'un auteur. Là, en fait, le film, dans ses champs contre champs qui sont quasi extrêmement longs, c'est-à-dire qu'un plan de Laurence Colli peut durer, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de minutes sans jamais bouger, ça oblige le spectateur, finalement, à traverser le récit en convoquant des émotions qui peuvent être très contradictoires et qui peuvent être et ça, et ça, et ça, et ça. Tantôt, on peut la trouver complètement à distance. Tantôt, on peut être complètement ému par elle. Tantôt, on peut la trouver manipulatrice. Tantôt, on peut... Enfin, il y a vraiment l'espace, en fait, est laissé au spectateur pour qu'il puisse lui-même devenir le juré de cette histoire, en fait, et faire de ce cas son propre jugement. Et ça, la mise en scène, elle avait vraiment cette fonction-là. Et en plus, d'offrir effectivement la possibilité d'écouter le récit si complexe et si nuancé d'une femme noire qui est vraiment pleine de toute sa puissance, quoi. Et ce cadre-là, si fixe et si long, était une façon de la regarder, de restituer ce regard très intense sur elle, quoi, que j'ai éprouvé moi.
Ce regard donc d'une femme noire accusée, regardée par une autre femme noire.
Mais pas que. Regardée tant par Rama que par les spectateurs blancs qui sont autour de Rama, que par tous les spectateurs qui regardent le film.
C'est... Et par la présidente, par l'avocate.
Effectivement.
Mais je voulais en venir en fait à Rama, puisque vous l'avez un petit peu aussi déjà dévoilé. Rama, qui est donc écrivain, prof, que l'on voit au tout début du film donner un cours magistral, projeter à ses étudiants un film d'archives sur des femmes tondues à la libération en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Ils sont jeunes. Ce sont des héros sans imagination. Ils me tondent avec soin jusqu'au bout. Ils croient de leur devoir de bien tondre les femmes. As-tu honte pour eux, mon amour? Non. Tu es mort. Je suis bien trop occupée à souffrir. Le jour tombe. Je ne suis attentive qu'au bruit des ciseaux sur ma tête. Ça me soulage un tout petit peu de ta mort. Ah, quelle douleur! Quelle douleur au cœur, c'est fou! On chante la Marseillaise dans toute la ville. La pharmacie de mon père est fermée pour cause de déshonneur. Je suis seule. Il y en a qui rient. Dans la nuit, je rentre chez moi.
Voilà, Rama, hein, c'est joué par Kaiji Kagame. Rama qui lit en fait des mots de Marguerite Duras hein, dans Hiroshima, mon amour. Marguerite Duras qui voulait, alors je cite, transmuer le choc et le sentiment de révolte en un chant lyrique.
Selon Rama, selon la profession de
Rama.
Littérature qu'elle est.
Mais on peut, aussi voir on peut aussi voir Saint-Omer, ça peut être un manifeste, on peut aussi voir ces mots comme un manifeste de Saint-Omer.
Tout à fait, d'ailleurs c'est pensé comme ça, c'est, le film s'ouvre effectivement quasiment sur ces images de femmes tondues qui sont très 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 ambivalentes, ces images. C'est des femmes tondues en place publique comme ça, à char. Tu crois que c'est pris par des GI américains. Il y a quelque chose de très ambivalent et inconfortable à la vue de ces images. Moi, en fait, cette première séquence me vient d'une exposition que j'avais vue à la Bibliothèque nationale, aux Archives nationales, qui s'appelait « Femmes criminelles », sur le corps des femmes, en fait, c'est sur la manière dont la justice, en fait, s'empare du corps des femmes. C'est une exposition d'il y a quelques années et qui m'a vraiment complètement habitée et qui m'a aidée à travailler le film. Et ces images-là, en fait, il y a tout ce que j'aime dans l'œuvre de Duras. C'est l'audace qu'elle a d'aller approcher la thématique du féminin, mais à des endroits tabous, à des endroits inconfortables, à l'endroit de la complexité, qui est tout sauf lisse, en fait. C'est vraiment une vision du féminin, en fait, qui est extrêmement puissant. Les femmes durassiennes sont extrêmement puissantes et très ambivalentes, très ambiguës. Et ces images, c'est l'effet qu'elles me font. On est en face de femmes qui ont commis un crime, des femmes coupables, mais qui sont aussi victimes de par la violence, de cette barbarie de la justice qui s'empare de leur corps, en fait. Il y a quelque chose... Donc c'est aussi une réflexion sur la manière dont on juge le corps des femmes, sur l'ambiguïté, sur l'audace de l'ambiguïté d'aller s'intéresser à des femmes qui ont commis comme ça des crimes impardonnables. Et je ne mets pas sur le même plan une femme qui a collaboré avec les Allemands, avec une femme qui a tué son enfant, mais quand on regarde Laurence Colly, il y a aussi quelque chose de cette ambiguïté. C'est une victime comme une coupable. C'est-à-dire que c'est une coupable, elle a commis un acte impardonnable et l'idée n'est pas du tout d'absoudre son acte, mais tenter d'aller l'écouter, c'est de lui restituer quelque chose qui lui fait échapper au monstre. C'est pas les femmes qui ont... Voilà, ce n'est pas que des monstres et les mots d'Hiroshima, mon amour, c'est une manière d'écouter ces femmes, de ne pas en faire des monstres et de tenter d'y voir dans ce qu'elles ont fait quelque chose qu'on peut reconnaître, qu'on peut comprendre, qu'on peut... Et c'est ce que tente de faire le procès avec cette femme qui a commis un acte qui fait partie des plus grands tabous de l'humanité. Et tenter de l'écouter, c'est au fond rendre justice à l'enfant. Pour moi, le film, c'est vraiment une manière de rendre justice à l'enfant. Et rendre justice à cet enfant, c'est d'aller vraiment écouter le récit de sa mère, en fait.
Rendre justice à l'enfant, puis aussi à la lignée. Il y a des très très beaux mots. La plaidoirie de l'avocate est magnifique, sur notamment les cellules chimériques, le fait qu'une femme qui porte la vie porte en elle aussi sa mère, les cellules de sa mère et celui de son enfant.
À ce moment-là, sur le tournage, on imagine qu'il y avait beaucoup d'émotions.
Oui, et plus que d'émotion, je me suis évanouie quasiment. J'ai été transportée à l'hôpital
Lors du tournage de cette séquence.
En fait, ce qui est drôle avec cette séquence, c'est que le procès a été tourné dans la continuité, donc c'était le dernier plan, la dernière journée de tournage du tribunal. C'est quand même un film qui a été tourné majoritairement avec des femmes à tous les postes. Donc c'était comme un gynécée reconstitué, comme un psychodrame où on était chacune à chaque fois en permanence. Renvoyer non pas qu'à notre fonction technique d'être réalisatrice, chef opératrice, assistante réalisatrice, on était aussi des femmes et des mères écoutant ça. Et donc en fait, en permanence, on était dans un espace très ambigu d'un film qu'on faisait avec ce que ce film nous faisait en direct. Et en fait, cette scène-là, elle est arrivée à la fin du tournage, donc chargée par cette traversée émotionnelle qui a été extrêmement intense pour tous et toutes. Et effectivement, toutes les femmes se sont effondrées. Les pleurs des femmes qu'on voit à la fin sont des pleurs, je dirais, documentaires. Les femmes, elles pleurent pas, elles jouent pas à pleurer, elles écoutent et elles pleurent sur leur vie, elles pleurent sur elles-mêmes, elles pleurent sur leur mère, elles pleurent sur leurs enfants. Elles réparent, elles consolent quelque chose. Et moi, ça a été un moment d'une grande catharsis, en fait, où j'ai pu m'effondrer, c'est-à-dire que j'ai pu finalement lâcher le film. J'ai pu me dire, en fait, tu as été au bout, en fait, écouter ça et offrir ça, c'est aller au bout. Maintenant, plus rien n'est possible. Maintenant, tu peux partir à l'hôpital, enfin vraiment, aller naître, je ne sais pas, aller renaître d'une certaine façon. Mais il y avait quelque chose de très, très mystérieux, en fait, très, presque mystique dans cette manière dont on a été complètement pulvérisé par ce texte. Pulvérisé, ouais, c'est le mot.
Merci beaucoup, Alice Diop, d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous restez encore un petit peu ? Le temps de feuilleter le journal du cinéma. Juste après cette nouveauté musicale, le choix de notre réalisatrice Fanny Renard, c'est Rosaline avec ce titre Snap. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers.
as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
C'était Rosaline avec ce titre Snap. Maintenant, c'est le moment du journal du cinéma avec vous, Elisabeth.
Mr. Navarsky, please follow me.
Il avait inspiré un film, hein, c'est le Terminal de Spielberg, dont on entend en bout de la bande-annonce. Le réfugié politique iranien Mehran Karimi Nasseri, qui a vécu plus de 18 ans à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, est mort samedi dernier.
Oui, il était arrivé à l'aéroport en novembre 1998. Après un long périple, il y avait élu domicile. C'était une figure très connue de l'aéroport. On l'appelait Sir Alfred. Et en plus du film, où il était joué, on s'en souvient, par Tom Hanks, il avait fait l'objet de nombreux reportages. En 1999, il avait obtenu le statut de réfugié en France et un titre de séjour. Mais apparemment, il était revenu à l'aéroport au terminal 2F.
I can tell you things, Rika. Things you've forgotten. Things I know you want to hear.
How old are you?
Alors, c'est une jeune femme de beauté métissée aux longs cheveux bruns. À 42 ans, la Sud-Africaine Kim Engelbrecht est entrée dans l'histoire du cinéma.
Oui, elle est la cinquième Africaine nommée pour un Emmy Award pour son rôle dans la série Reika, où elle joue une profileuse de police à la poursuite d'un serial killer. Ça se passe dans les régions zoulous de l'Est sud-africain.
No, not now.
You are a disgrace.
No. No. You are not my father. I am not a disgrace.
Adieu, Chevalier Noir. Kevin Conroy, qui fut pendant 3 décennies la voix de Batman dans la série animée de DC Comics, est mort.
Oui, il avait 66 ans. Il avait enfilé le costume de Batman dans plus de 60 productions différentes. La première fois, c'était en 92, dans la série animée Batman. Et son interprétation, apparemment, avait été tellement appréciée que DC Comics a fait appel à lui dans chaque nouvelle interprétation à l'écran et puis aussi dans des jeux vidéo comme Arkham Knight et Arkham City.
On part au Soudan, où le 7e art était à l'honneur toute cette semaine. L'association Sudanese Film Group organisait le Cinéma des Voisins, un festival dédié au grand écran. Chaque jour, bien, il y avait des projections, des conférences qui mettaient en lumière des films réalisés à l'est du continent, dans la Corne de l'Afrique. Ces journées du cinéma africain sont trop peu connues au Soudan. Pourtant, elles existent depuis longtemps. Il faut remonter en 1986. La Fédération panafricaine des cinéastes se réunissait à Nairobi, au Kenya, et décidait de célébrer chaque année les productions cinématographiques du continent. Cette semaine, à Khartoum, des films somaliens, éthiopiens et des courts et longs métrages soudanais étaient projetés dans plusieurs quartiers de la capitale, diffusés avec le soutien de l'Institut français et de la Cinémathèque. Notre correspondant Elliot Brachet a suivi pour nous cet événement.
Plusieurs centaines de personnes sont assises en plein air sous les palmiers du centre culturel d'Umdoloman. Le festival s'ouvre avec le film « La femme du fossoyeur » du réalisateur somalien Ahmed Radar. La directrice exécutive du Sudan Film Group, Hanna Abderrahman, se félicite de faire salle comble.
Notre but aujourd'hui, c'est de ramener les gens dans les salles et leur donner le goût du cinéma, et plus particulièrement de les sensibiliser au cinéma africain. C'est important car en général, les seules salles existantes diffuse toujours des films plus commerciaux. Or, le cinéma africain est plus proche de nous, il nous ressemble. Ce festival, c'est une manière de nous rapprocher des sociétés qui nous entourent, du contexte dans lequel vivent nos voisins sur le continent et comment ils voient le cinéma.
Au Soudan, le cinéma a eu son âge d'or. Dans les années 70, il était plus populaire que le football, s'amuse l'un des pionniers du 7e art soudanais, Souleymane Ibrahim, jusqu'au jour où le coup d'État d'Omar al-Bashir en 1989 fait tomber le rideau sur le grand écran.
Ce fut la période la plus sombre de l'histoire du Soudan, l'arrivée au pouvoir du régime islamiste. Toutes les salles de cinéma ont été fermées, toutes les institutions cinématographiques dissoutes. Tous les artistes subissaient les pressions des autorités. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Le cinéma soudanais continue de faire face à d'immenses difficultés. Sans moyens, ni soutien de la part de l'État, ni du secteur privé. Cependant, depuis la révolution contre al-Bashir, l'espoir renaît, et ce malgré la répression.
Depuis 3 ans, le cinéma soudanais connaît un renouveau avec plusieurs films qui ont fait le tour des festivals internationaux. Il y a de l'espoir pour la scène artistique, veut croire Hassan Al-Baloula, directeur du centre culturel qui accueille le festival.
À l'origine, ce bâtiment était utilisé par le régime islamiste pour des réunions politiques et comme une base pour les services de sécurité. Après la révolution, avec un groupe de bénévoles, deux membres des comités de résistance et de révolutionnaires, nous avons rénové cet espace de A à Z. Nous lui avons donné une autre identité. Nous l'avons ouvert au public comme un lieu social et artistique, pour les étudiants, les chercheurs. C'est un symbole du changement.
Malgré le coup d'État et le retour des militaires au pouvoir, une fenêtre de liberté s'est ouverte au Soudan et la nouvelle génération de cinéastes, d'artistes, tout comme le public, sont bien déterminés à ne pas la laisser se refermer. Elliot Brachet, Khartoum, RFI.
Voilà, et c'est sur cette bonne nouvelle que s'achèvent tous les cinémas du monde. Merci encore Alice Diop.
Merci à vous.
Votre film Saint-Omer sort en salle mercredi prochain en France. Il y a une date de sortie prévue au Sénégal ?
Pas encore. Bon. J'espère qu'il pourra être vu là-bas.
Ouais. Et puis, imagine que sa vie de festival dans le monde entier n'est pas encore terminée. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie de Blandine Lenoir pour son film Annie Colère, portrait d'une femme, portrait de femmes et de groupes dans la France des années 1970, avec celles et ceux qui se battaient pour la reconnaissance du droit à l'avortement, sujet actuel et brûlant s'il en est. D'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde sur RFI. Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéret.